Maintenant un bon boîte de casse.
Maintenant un bon boîte de casse.
Et maintenant un bon boîte de casse.
Et bonjour à toutes et tous. Nous avons le plaisir d'être en face de Sébastien Dujardin. Sébastien Dujardin qui est non seulement le co-auteur d'un jeu qui va sortir au Salon de Essen donc d'ici une semaine puisque nous sommes le 13 octobre et qui est aussi l'instigateur de la société d'édition Pearl Games. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Alors c'est une année riche pour toi puisque non seulement tu as un de tes premiers jeux qui sort sur le marché, et pas des moindres, puisqu'on a un jeu qui est assez gros dont on va parler, mais en plus, c'est toi qui le sors en tant qu'éditeur avec Pearl Games. Donc, c'est un pari de fou de faire ça comme ça en une année en disant on y va.
Ouais, je me suis jamais senti fou, mais c'est 2 ans quand même, deux ans de travail. Ouais, 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 c'est une grosse année pour nous. Mais je dis nous parce qu'on était 3 quand même, hein, donc on a quand même, j'ai quand même eu le soutien des 2 auteurs sur toute la phase créative.
Ouais. Donc là, on parle du jeu 3, voilà. De la ville de 3, pas le chiffre. Et le jeu a été co-créé avec Xavier Georges et Alain Orban. Donc Xavier Georges qu'on a connu pour Carson City, Palais Royal, et Alain Orban pour Santiano. Et donc toi Sébastien, c'est la première fois, il y a 2 jeux qui sont en cours, on va en reparler, mais pour l'instant, 3 c'est le seul qui arrive. Quoi.
Oui, effectivement, c'est mon premier jeu qui va sortir sur le marché, le deuxième sera juste après, mais c'est pas moi, c'est chez Asynchron en tant qu'auteur à ce moment-là. Oui. Voilà.
Donc là, avec le jeu 3 dont on va parler en détail, tu es l'éditeur et le distributeur c'est FFG et Edge, donc
c'est Millennium. Ouais.
C'est Millennium. Hein. Donc comment s'est passé donc quel est le déclic qui t'a fait te dire bon ben je me lance, je crée ma société d'édition et puis aussi ben quelle est l'étape qui t'a permis de rencontrer un distributeur aussi prestigieux on va dire parce qu'il a quand même pignon sur rue.
Alors, ça fait beaucoup de choses. L'étape d'abord, enfin, il faut revenir au début, c'est faire des jeux en tant qu'auteur. Donc ça, c'est clairement ce qui m'a lancé. Pendant un an, j'ai fait énormément de prototypes, j'ai fait beaucoup de choses que j'ai jamais trouvé suffisamment bon que pour les présenter aux éditeurs. Bon, après un an, c'est venu quand même, j'ai commencé à démarcher, d'où la signature de mon premier contrat. Et en parallèle de ça, donc j'ai commencé 3 avec les 2 copains, hein, Xavier et Alain, que j'ai rencontré à Essen et juste avant Alain à une soirée proto, enfin soit. Donc on avait ce projet-là et en fait l'idée de l'éditer c'est venu il y a un an. Donc voilà. Il y a eu un an de développement du jeu et en fait à ce moment-là je voulais déjà éditer un jeu il y a 2 ans, faut me suivre. Donc il y a 2 ans j'essayais déjà de chercher des jeux ailleurs jusqu'au moment où je me suis rendu compte que 3 ben voilà ça pouvait devenir quelque chose de vraiment bien et j'ai eu le feu vert de mes 2 collègues de co-auteurs donc là-dessus ils m'ont vraiment soutenu et donc voilà, mais ça s'est passé un peu à l'envers dans la mesure où j'ai voulu d'abord faire de l'édition. Et j'ai cherché quelques jeux chez les copains d'abord, parce que c'est pas évident quand on vient un peu de nulle part d'avoir des auteurs réputés. Et seulement après, je me suis rendu compte que ce jeu-là serait 3. Donc ça s'est passé un peu à l'envers.
Et donc on l'a dit, 3, c'est 2 ans de développement. Mais finalement, vous êtes co-auteur, c'est-à-dire que dès le début, vous étiez ensemble pour développer cette idée-là.
Clairement. Donc il y a 2 ans, Xavier m'a présenter un jeu, donc l'idée c'était d'avoir des dés et d'en faire un jeu.
Waouh.
Non, le cœur du jeu était déjà dans la tête de Xavier il y a 2 ans, mais il n'avait pas le temps pour y travailler. Donc c'est là qu'il a demandé de l'aide parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Donc c'est là qu'on s'est mis à 3 tout de suite sur le projet parce qu'il n'avait pas le temps en fait.
Donc il y a un échange qui se fait, vous n'habitez pas spécialement au même endroit, donc heureusement Internet est là, on commence à s'échanger des informations. La mécanique, on en a parlé un petit peu minimum, c'est l'histoire des dés. Il y a beaucoup de dés dans le jeu, mais finalement ça devient un jeu assez gros. On reconnaît peut-être la patte de Xavier Georges, c'est-à-dire qu'on est sur du gros jeu dès le départ.
Alors oui, la patte de Xavier, c'est bien de le dire comme ça, parce que on reconnaît vraiment la patte, moins de Palais Royal, mais surtout de Carson City, dans la mesure où on a un gros jeu, on a un Kellus-like, hein, et on a du fun dedans avec du défi et du dé, quoi, hein, simplement. Et là, il y a clairement la patte de Xavier ici. Avec un gros jeu et avec du dé. Mais plus que ça, ça veut dire qu'on a voulu donner un peu à l'Isparon. Bon, on cite souvent Isparon, mais c'est vrai que c'est un précurseur dans ce type de jeu de dés qui donne de la réflexion. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un jeu où les actions, on a accès aux actions par du dé, ouais, mais où on a de l'influence sur le résultat de ces dés. Quoi. Ouais. Donc il y a une vraie gestion du hasard, ouais, en fait.
Alors justement, si la patte de Xavier Georges, c'était cette complexité à la Carson City, quelle a été l'influence des deux autres co-auteurs?
Alors, l'influence des deux autres co-auteurs. Moi, clairement, j'aime bien ce qui va vite, ce qui est dynamique. Et Alain aussi, je pense. Et là où Xavier voyait quelque chose d'un développement stratégique lent, entre guillemets, où j'achète des choses pour avoir de plus en plus de choses et où ça s'établit très lentement, dans 3, on a quelque chose où le développement est hyper rapide. En fait, dès le début, on a quasi tout. Et dès le début, on a quasi accès à toutes les actions. Donc il n'y a pas de développement lent. Et c'est un peu déstabilisé Xavier par moment parce qu'il se disait, tiens, c'est pas ce que j'avais en tête. Mais en fin de compte, donc je crois que c'est essentiellement, s'il fallait résumer, parce que sinon on peut encore en parler, on peut en parler longtemps. Donc ça, c'est vraiment dans les grosses lignes. Ouais. Mais après, évidemment, quand on travaille à 3 sur un projet, il y a un tas de choses qui viennent de moi, d'Alain. Enfin, on compte plus, évidemment. Ouais. Hein. Et c'est pour ça que ça s'est très, très bien passé. C'est parce qu'on on pourrait s'imaginer des longues heures de débat, mais pas du tout, parce que en général, les idées qui plaisaient pas après 5 minutes, on les oubliait parce que on sentait que ça plaisait pas aux deux, quoi, aux deux autres. Et ça, c'était génial parce qu'on n'a pas perdu de temps dans des palabres, les choses se passaient vraiment naturellement, quoi. Et donc voilà, pour notre collaboration, effectivement, on n'habite pas très très proche l'un de l'autre, donc on se voit une fois par mois pendant 2 ans, c'est déjà.
Ok. Et donc le jeu se développe petit à petit, à 3, et puis donc tu l'as dit, il y a un moment où tu voulais éditer et puis ça, l'étincelle est là, on va éditer 3. Donc le jeu s'appelle 3, on est dans la ville de 3, il y a une raison pour ça?
La raison, c'est que quand Xavier est venu me voir, le jeu s'appelait déjà 3. Voilà. Et comme je ne suis pas, contraire, non. En fait, il y tenait, il aimait l'histoire de la ville. Bon, il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Je me suis renseigné et j'ai aussi été pris par l'histoire de la ville. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que je me suis rendu compte que c'était jumelé avec Tournai, où je suis né, voilà. Donc, et comme en plus on est 3, il n'y avait pas de raison de changer, en fait.
Hein. Ah oui, non, c'est parfait. Alors justement, le déclic qui lance l'édition, donc tu crées Pearl Games, c'est toi le patron de Pearl Games. Donc, quel est tu connaissais déjà le milieu de l'édition, ou bien tu t'es dit bon ben on y va et puis on va voir comment je fais.
Alors, je suis gros joueur, on va dire comme ça, depuis quand même quelques années. Donc, je connais le milieu de l'édition en tant que joueur. Bon, on est en Belgique, on croise Mathieu, Thomas, Cédric, on croise Cyril. Enfin, on commence à connaître beaucoup de gens, mais c'est tout. Donc, j'ai jamais travaillé en boutique, j'ai jamais fait autre chose, quoi. Mais ça a été, je veux dire, c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on a un produit qui tient la route, quoi. Ouais. Que ce soit l'accès à la distribution, que ce soit l'accès à un illustrateur, parce que bon, on n'a pas encore parlé d'Alexandre Roche, mais c'est quand même un nom dans le milieu. Donc lui, il avait déjà travaillé avec Xavier, donc il savait qu'il ne s'engageait pas dans n'importe quoi. Donc ça n'a pas été si compliqué. Les choses se sont faites, se sont bien goupillées, quoi.
Tu avais quand même le sentiment de devoir avoir ce qu'on appelle un réseau, très pompeusement, c'est-à-dire quand même avoir des connaissances et de se dire, tiens, qui est-ce que je dois contacter pour faire les cartes, qui je dois contacter pour faire le plateau, qui pourrait me produire telle chose. Il y a quand même une interaction avec le milieu du jeu, quoi.
Oui, mais c'est clairement ma passion pour le jeu qui me donnait toutes ces réponses. Ludofac, je connaissais, mais c'est pas parce que je voulais fabriquer un jeu. Je connaissais parce qu'il y avait eu des articles sur Ludofac, et je savais que la qualité Ludofac me plaisait. Donc là, j'ai même pas cherché ailleurs, tellement j'aime ça. Et ça, c'est bon pour la distribution aussi. Je sais que ce type de jeu-là en France, c'est Millennium. C'est clairement eux qui font ce type de jeu. Donc les choses viennent naturellement quand on est vraiment passionné.
Le jeu lui-même, c'est un jeu qui mélange des dés. Ça peut faire peur en disant, ben voilà, on lance des dés, mais on se rend très vite compte que c'est autre chose. Donc, tu y fais référence, on parle d'Isparan. Moi, je parlerai aussi de Kingsburg, qui est assez dans cette logique-là. On lance des dés, mais finalement, on utilise le résultat des dés pour faire quelque chose d'intéressant. Parce que les dés, c'est une mécanique. On parle d'action, on parle d'influence et on parle même de rôle caché. Allons-y, quel est donc le but du jeu et quelle est la mise en place, et puis on découlera sur le reste.
Alors le but du jeu, donc on est en Champagne au XIIIe siècle même, on est une riche famille champenoise et notre but c'est d'avoir un maximum de prestige sur les 4 siècles d'évolution de la ville. Et pourquoi 1200 ? Parce que c'est le début du chantier de la cathédrale de la ville et on va donc jouer 4 siècles et qui n'a même pas été réellement terminé, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une tour. C'est moche, hein? Ben oui, c'est comme ça, les gars. Il n'y a qu'une tour. Sur ces 4 siècles-là, on va se développer sa famille, et on va devoir user de son influence, comme tu l'as dit, sur les trois ordres de la population, donc sur les trois classes de la population qui étaient. Le religieux, je montre en même temps, je me reprends parce que
met sa main sur les cartes.
Voilà, je me reprends parce que je me suis trompé, mais là c'était les religieux, pas les militaires, vu que les militaires sont là en bas et les civils ici. Donc on a 3 couleurs très importantes dans le jeu, le blanc religieux, le rouge militaire, le jaune civil. Et ces couleurs-là vont être représentées sur toutes les cartes du jeu, et également sur les dés, sur les fameux dés. Et donc, nous, on va diriger nos hommes qui sont des dés. Donc, on va commencer la partie avec un placement rapide qui va nous conférer 4, 5 ou 6 hommes en fonction du nombre de joueurs. Et on va donc lancer 4, 5 ou 6 dés.
Donc, c'est un jeu où on va gérer son influence et son argent. Ce sont ça les ressources qu'on va gérer pendant le jeu et on va les utiliser pour faire prospérer sa famille et ses hommes.
Voilà, 2 ressources dans le jeu, pas besoin de pierre pour construire la cathédrale, pas besoin de blé pour nourrir ses hommes. Enfin, si tous ces éléments-là sont dans le jeu, évidemment, mais les 2 ressources qu'on a entre les mains, c'est de l'influence et des deniers, donc la monnaie de l'époque. Et donc, ces deniers vont nous permettre d'engager les hommes, donc les dés adverses. Et donc, pendant tout le jeu, pour réaliser des actions, on va prendre gratuitement ces hommes, les hommes qu'on a sous son influence, et on va pouvoir payer pour prendre ceux des autres.
D'accord.
Donc ça, c'est l'or. Et l'influence va nous aider parce qu'on va pouvoir mettre des coups de pied aux fesses de nos hommes. Donc on va pouvoir relancer des dés, on va pouvoir retourner des dés, on va avoir une grande maîtrise sur les résultats de ces dés.
Ouais.
Et donc c'est ce qui fait que le jeu est un gros jeu avec des dés.
Alors le plateau de jeu montre la ville de Troyes qui, on sait que dans la région de Troyes il y a beaucoup de champagne qui est fait, et en plus la ville a la forme d'un bouchon de champagne, et vous avez gardé ce design là.
Ouais, ça fait partie des choses qui m'ont amusé sur Troyes. Quand tu demandais tout à l'heure, on a gardé Troyes, oui, parce que je trouve ça génial. Je sais pas si tu le savais, mais effectivement la forme des remparts était en bouchon de champagne, et on a gardé ça, oui.
Alors justement, dans ce plan-là, donc c'est une vue d'oiseau de la ville. On a des emplacements, donc on l'a dit, avec les influences religieuses, militaires et civiles. Et sur ces emplacements, il y a différentes cartes qui vont, j'imagine, pouvoir être utilisées avec les dés.
Voilà, donc quand je disais que les dés amenaient les joueurs vers les actions, on a ensuite 5 possibilités d'action. Donc à son tour, je vais regarder les dés disponibles. Donc chaque action nécessite des dés. Et je vais activer l'une des 5 actions possibles. Et parmi ces 5 actions possibles, il y a effectivement l'utilisation des cartes activités, donc qu'on voit sur le plateau. Et il faut savoir qu'il y a 27 cartes dans la boîte et on en joue 9 par partie. Donc il y a un renouvellement, il y a des combos qui se dessinent de partie en partie. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu aussi dans la mécanique du jeu.
Okay, donc on a des activités de type religieux, des activités de type militaire, de type civil. Juste un exemple de chaque.
Ah ben on va prendre le prêtre.
Ouais.
Bon, on va rester soft. Hein.
Qu'est-ce que tu veux dire?
On va rester. Donc par exemple le prêtre, il va vous aider à vous sentir mieux dans. Donc en fait c'est une carte qui permet d'augmenter les actions des civils.
Mm-hmm.
Donc quand on va sur le prêtre, on aura des civils plus efficaces.
Mm-hmm.
Donc ça c'est un exemple religieux.
Mm-hmm.
On peut aller sur le militaire où il y a moyen de gagner des joutes.
Mm-hmm.
Donc au moment où j'active la carte militaire, si c'est moi le plus fort en militaire, ça veut dire sur la place, si c'est moi qui ai les meilleurs militaires, le meilleur total, je gagne la joute.
D'accord.
Donc c'est une possibilité de gagner de la renommée.
D'accord.
Donc si on part sur le civil c'est surtout pour gagner de l'argent, mais ici j'ai par exemple mis les miliciens. Les miliciens portent bien leur nom, ça veut dire qu'avec des dés jaunes, je vais pouvoir réaliser des actions rouges.
D'accord.
donc des actions militaires. Donc il y a toujours moyen, si je pars sur une stratégie civile, il y a moyen de partir sur du militaire grâce à mes cartes. Il y a beaucoup de possibilités.
Et le fait d'activer ces cartes se fait aussi en dépensant les dés, évidemment. Donc je vois par exemple ici pour la joute, on a 3 dés dessinés, divisé par 3, ça veut dire quoi ça?
Alors effectivement, donc comme j'ai dit, une action égale un lot de dés. Mm-hmm. On a besoin pour réaliser une action de 1 à 3 dés de la même couleur. Ouais. Donc si on prend l'exemple par exemple du milicien, j'aurai besoin pour utiliser le milicien de 1 à 3 dés jaune. Ouais. Et je vais effectivement faire la somme de ces dés. Donc là j'ai pris 3, 5, ça fait 15. Mm-hmm. Et un peu comme dans... on va encore parler d'un autre très bon jeu de gestion avec des dés, enfin que j'adore, ouais. C'est... l'âge de pierre, voilà, l'âge de pierre. Et donc, un peu comme dans l'âge de pierre, on va diviser par le dénominateur. Donc là, on a 15 divisé par 3, ça veut dire que je vais utiliser la carte 5 fois, voilà. Simplement. Donc, on a une valeur de notre lot et on le divise par le chiffre indiqué sur la carte. Mmh. Et on a comme ça le nombre de fois qu'on utilise la carte. Donc, évidemment, la force de nos dés représentera la force de notre action.
Okay. Donc, sur le plateau, il y a d'autres endroits. Il y a par exemple la construction de la cathédrale qui se paye aussi avec des dés. Donc, je vois, il y a des emplacements pour mettre des petits cubes et ça va apporter de l'influence. Ça, c'est un autre poste sur le plateau.
Voilà, donc j'ai parlé de 5 actions. La première, c'était utiliser les fameuses cartes d'activité, ouais. Comme je viens d'expliquer. La deuxième, c'est la cathédrale. Mmh. Et pour la cathédrale, on a besoin uniquement de dés blancs. Mmh. Et là, c'est relativement simple. On a 9 possibilités, fois 3 ça fait 27, de placer un cube. Et là on va simplement regarder la valeur de son dé. Donc avec un 1, je vais pouvoir mettre un de mes cubes pour construire la cathédrale sur la colonne 1, avec un 2 sur la colonne 2. Donc il est toujours important, avec les blancs, de se savoir que le 1 n'a pas plus d'importance que le 6 pour construire la cathédrale.
Par contre, il n'y a plus de place.
Alors quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, évidemment. Voilà. Donc la cathédrale est finie. Et ce qui est rigolo au niveau de la cathédrale, c'est qu'il y a des pénalités. Donc si on n'est pas présent sur le premier... Donc il y a 3 niveaux de cathédrale. Si on n'est pas présent sur le premier niveau, ben, on perdra 2 points en fin de partie. Donc quand on doit faire une action, il faut toujours regarder est-ce que je ne peux pas placer un cube là où je ne suis pas encore présent. Et si c'est le cas, est-ce que je n'ai pas quelque chose qui sera plus rentable. Donc ça nous met toujours face à des beaux dilemmes.
Alors, ça c'était le deuxième poste, le troisième.
Deuxième action, donc la cathédrale. La troisième action, on a des événements néfastes. Hein. À chaque tour, il y en a 2 qui arrivent. Et ces événements, à chaque tour, vont re-embêter, pour pas dire autre chose, les joueurs. Donc chaque événement est néfaste. Il y a des événements qui m'embêtent pas. Moi, je suis très très riche, j'ai plein d'argent. Je vais pas lutter contre un événement qui fait perdre de l'argent. Donc je vais même faire en sorte d'utiliser les dés pour faire autre chose. Comme ça, les autres seront de plus en plus pauvres et voilà, et je serai heureux, sadique que je suis. Donc il y a des événements qu'on peut lutter. Donc si on lutte pas, ben ils vont s'additionner et on peut avoir des parties très lourdes parce qu'on perd plein de choses, mais ça fait partie de la richesse du jeu. Si un joueur décide de ne pas lutter contre les événements, ça aura un très gros impact sur le déroulement de la partie.
Donc pour lutter, on dépense aussi des dés d'une couleur spécifique.
Toujours. Des dés égale une action. Donc pour lutter contre les événements, on aura besoin, en fonction de l'événement, s'il est civil, militaire, religieux, de dés blancs, jaunes ou rouges.
Voilà.
C'est la mécanique principale du jeu.
Ouais. Alors, donc c'était le quatrième, le cinquième.
Le cinquième, c'est un peu accessoire, c'est la roue de secours, hein. C'est l'agriculture, c'est pour gagner de l'argent, donc ça c'est les civils uniquement. Ouais. Je dis que c'est la roue de secours parce qu'on a toujours des cartes un peu plus intéressantes pour gagner de l'argent, mais si on a mal préparé son coup, donc ça c'est une action qui est très rapide et qui permet de renflouer les caisses, mais toujours on a besoin de des jaunes pour gagner de l'argent.
Et alors la sixième, la plus simple?
Je passe.
Voilà.
et je passe, voilà.
Donc si je passe, alors on l'a dit, les dés sont concentrés au centre du plateau. Si je passe, ça veut dire que les dés que j'ai lancés restent là?
Alors, je ne vais jamais passer quand j'ai des dés. Ça, c'est la règle de base.
Ouais.
Si on ne l'a pas compris, on l'apprend très très rapidement. Il faut savoir que le jeu se joue en 4, 5 ou 6 tours, si on joue à 2, 3 ou 4 joueurs.
Ouais.
Et si je passe, je ne peux plus jouer dans le tour. Mm-hmm. Donc je ne passe pas si j'ai des dés.
Ouais.
Je passe si je n'ai pas d'argent pour acheter des dés, mm-hmm. et si je n'ai pas de dés.
Okay. L'argent, justement, sert à acheter des dés qui appartiennent à un autre joueur pour pouvoir les mettre sur une des actions qu'on a citées.
Exactement. Donc l'utilité première des dés, c'est ça. J'utilise gratuitement mes hommes et je peux embaucher ceux des autres.
Voilà. Ok. On a vu, il y a une piste d'influence aussi sur le plateau qui est représentée par des petits drapeaux. Ces points d'influence rapportent des points à la fin de la partie, évidemment. Non ? Oui. Mais en plus, on peut les dépenser pour relancer des dés. Ça, tu l'as dit, c'est aussi une manière de gérer son hasard.
Ouais. Je vais revenir après sur les décomptes de fin de partie. Quand on dit l'influence peut rapporter des points, c'est vrai, mais pas toujours. Okay. Mais l'influence permet... Son but premier, c'est d'engager des nouveaux hommes et de modifier la valeur des dés qu'on a sous notre influence. Donc un 1, je peux le relancer. Ouais. Et je peux payer plus cher encore pour le retourner, sachant que c'est... toujours égal à 7, la somme de deux faces.
Et alors, dernière mécanique, si tant est qu'on doit lister les mécaniques, c'est qu'il y a un rôle secret, mais pour une fois, c'est un rôle secret qui profite à tout le monde.
Donc voilà, quand je disais l'influence peut rapporter des points, c'est vrai. En fait, on a 6 personnages qui sont 6 personnalités de la ville de Troyes et qui vont chacun engendrer un décompte en fin de partie. Donc par exemple, l'influence sera récompensée ou l'argent sera récompensé ou bien le nombre de cubes que j'ai placé à la cathédrale sera récompensé. J'ai l'information d'un des décomptes en début de partie. Donc, c'est mon rôle secret. Et je vais moi-même, évidemment, essayer de le scorer. Mais les autres vont également le scorer. Ça veut dire que si je ne suis pas très subtil et que je mets 9 cubes à la cathédrale dès le début, tout le monde va se dire, il faut que j'y aille. Ouais. Et là, je n'ai pas très bien joué. Ça peut se faire, mais ce n'est pas très bien joué.
Il faut que j'y aille parce que, justement, si ce décompte de la cathédrale, par exemple, va profiter aussi à ceux qui n'ont pas joué cette manière de, qui n'ont pas utilisé cette manière de jouer.
C'est la cathédrale, on a pris cet exemple-là, sera importante pour tous les joueurs. Donc moi, je sais qu'elle le sera. Les autres ne le savent pas. Mm-hmm. Mais s'ils voient que j'ai tendance à y aller, ils vont se dire, tiens, je vais aussi devoir y aller pour gagner des points. Donc c'est un objectif secret, mais qui est décompté pour tout le monde. Ouais. Donc on va en permanence se demander qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il a besoin d'argent ? On va analyser, et c'est ce qui nous plaît aussi, c'est que pendant le tour des autres, on a cette analyse qui est permanente et qui fait qu'on a le sentiment d'immerger les joueurs dans la partie. Ouais.
Tout à fait. Et donc finalement, le décompte final, on l'a dit, le jeu se passe sur 400 ans, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure ? Donc on arrive au bout de ces 400 ans d'une manière ou d'une autre que je n'ai pas encore perçu sur le jeu.
C'est un nombre de tours, hein, donc on joue sur un nombre de tours. Je vais dire que 400 ans, ça dépendra si on a fini la cathédrale, si on veut, respecter la réalité historique, parce qu'elle n'est pas toujours finie. Hein. Il suffit qu'il n'y ait personne qui soit intéressé via son rôle secret par la cathédrale pour qu'elle rame un peu, mais ça fait partie des configurations de jeu. Donc on va jouer un nombre fixe de tours. Et ce qui est important, c'est qu'un tour se termine quand il n'y a plus de dés disponibles. Donc les dés, c'est une vision des actions qui sont à disposition des joueurs en permanence. Donc il faut bien savoir que si je n'utilise pas une action, je la donne peut-être à un autre joueur, ce qui crée aussi une très grosse interaction dans le jeu. Quoi.
Okay. Parfait. Et donc, oui, le décompte final, on l'a dit. Le décompte final, il se base sur les points... Comment est-ce qu'on décompte les points finaux ? C'est de l'argent ? C'est de l'influence ?
On a des points de victoire, donc des points de renommée. On en engrange pendant toute la partie via ses actions. Donc on a des faces cachées, ce serait pas rigolo. si ça pourrait aller. Faces cachées, donc on gagne des points de victoire. J'ai pas été dans le détail, mais c'est vrai que quand on active nos cartes, on doit engager un homme de métier. Donc la deuxième grosse importance de l'argent, c'est ça. Et on a également des points de victoire. Ensuite, on va gagner des points de victoire sur sur les décomptes de rôle secret, et puis il y a les pénalités de la cathédrale. Oui, c'est ça que je cherchais. Il y a également les événements. Évidemment, quand on lutte sur un événement, on est récompensé par des points de victoire. D'accord. Donc il y a trois grosses sources de points de victoire qu'on additionne.
Donc, évidemment, comme dirait l'autre, le vainqueur gagne.
Oui, sauf s'il n'est pas vainqueur, en fait.
Voilà, donc c'est celui qui a le plus de points de victoire, évidemment. Ok, donc ça c'est une collaboration à trois auteurs. Quel est ton sentiment par rapport à un pré-Essen ? On sait que on peut précommander les jeux, on peut déjà interagir avec l'éditeur pour dire tiens, je réserve ma boîte à Essen. Où est-ce qu'on en est à une semaine du salon ?
Ben, on en est à ce que je dois traiter beaucoup de mails.
Sébastien ne dort plus beaucoup.
Non, c'est pas vrai, j'essaye. Non, c'est très agréable parce qu'on a vraiment un bon accueil pour le moment. Donc, que ce soit grâce au travail que j'adore d'Alexandre. Donc, le design déjà nous a attiré beaucoup de...
Donc, Alexandre Roche, qui est l'illustrateur du jeu.
Exactement, nous a attiré beaucoup de regards. Le fait d'avoir travaillé à trois avec notamment Xavier, il ne faut pas se cacher, il a eu un beau succès l'année dernière à SN. Donc, il y a vraiment énormément de demandes. Donc, il suffit d'aller voir notre fiche sur Board Game Geek. On a près de 15 000 visites. C'est vraiment, vraiment un bon score et on a beaucoup de précommandes. Donc là, on est à cran.
Voilà. Stressé mais confiant.
Ouais, stressé, c'est pas le mot. Ouais. C'est tellement une belle aventure que, on est, pas trop confiant parce qu'il faut jamais, mais ça, c'est bien, on est bien.
Enfin, 2010 a vu énormément d'éditeurs arriver sur la place. Bon, la réflexion des éditeurs qui sont déjà en place, c'est parfois de se dire, tiens, quelqu'un qui se lance dans l'auto-édition, il a peut-être pas compris, ou s'il a pas trouvé d'éditeur, c'est qu'il y a une raison, mais ta démarche est différente. C'est-à-dire que tu as un jeu, et tu as envie de l'éditer, même, on n'est pas face à quelqu'un qui fonce bien en tête en disant, mon jeu est magnifique.
Non, mais c'est rigolo parce qu'on me parle souvent d'auto-édition et moi je dis oui, mais j'aime pas ça. J'exagère en disant ça. Mais c'est vrai que la démarche d'auto-édition ne m'a jamais plu. Et c'est pour ça que j'ai commencé. Enfin, je disais tout à l'heure que je cherchais des jeux avant. Parce que moi j'ai beaucoup de jeux, j'ai beaucoup de choses qui me plaisent, mais j'aime pas trop. Je respecte tout à fait l'auto-édition, mais je trouve qu'il faut avoir une confiance gigantesque que moi, j'avais pas. Donc, il est évident que j'aurais jamais signé un jeu, enfin, j'aurais jamais fait un jeu moi-même. Ouais. Donc, ça, c'est sûr. Si je l'ai fait ici, c'est parce que j'étais entouré de personnes qui m'ont inspiré, enfin, qui m'ont donné la confiance, qui font de belles choses, qui font de bonnes choses. Et donc, le mot auto-édition, c'est vrai que je l'emploie pas beaucoup, mais ça, il est vrai quand même, hein, vu que je suis auteur et éditeur. Donc, clairement, ma démarche, elle est que j'étais à ce point confiant et bien entouré que j'ai foncé. Bon, après, il y a plein d'autres choses qui font que je me suis lancé. Je suis le premier à comprendre les éditeurs déjà installés qui se disent, mais les gars, faut se calmer, hein, c'est évident. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pas fait avant, parce que malgré tout, il y a de l'hésitation. Mais ça, je le comprends. Évidemment, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'acteurs et il y a un moment où ça va péter, quoi. Il y a un moment où la marmite va sauter et ça, j'en ai conscience. Mais la démarche est peut-être un peu égoïste dans la mesure où moi j'avais du temps et j'avais un jeu qui me plaisait. Donc, il faut bien savoir que 3 n'a été présenté à aucun éditeur. Donc c'est pas une démarche de dépit, quoi. Exactement. C'est pas du tout. Bien au contraire, je pense que il y a même des éditeurs qui demandaient à Xavier, écoute, t'as pas un jeu et il devait dire que le jeu était déjà fait ailleurs. Donc je profite encore une fois de l'occasion pour le remercier parce que là il y a vraiment eu de la confiance sur cet aspect des choses, quoi.
Bien, ben écoute, voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un excellent succès à vous trois pour trois au salon de Essen et on vous suivra sur ce coup-là. Merci beaucoup, Sébastien.
Mais merci à toi, c'était bien sympa.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche Trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.